Nos voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Penaï Traoré.
Bienvenue à tous à 7 milliards de voisins. Vous avez rencontré votre âme sœur, vous le savez au fond de vous, c'est elle, c'est lui. Vous vivez sur votre petit nuage et vient le moment de présenter votre tendre moitié à votre famille. C'est une étape importante dans la vie d'un couple quand on décide de présenter sa bien-aimée, son bien-aimé à ses parents. Comment passer cette épreuve de présentation sans commettre d'impair? Vous vous êtes-vous déjà posé la question de savoir comment allez-vous faire pour présenter votre petite amie ou votre petite copine à vos parents? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans 7 milliards de voisins. On a hâte d'entendre vos témoignages, chers voisins et voisines. On vous attend pour cela au 33 1 84 22 71 71, aussi sur WhatsApp pour nous laisser vos messages. Comment ça s'est passé pour vous? Quand est venu le moment de présenter votre bien-aimé à votre famille? La première rencontre avec belle-maman et beau-papa, s'est-elle bien passée dans une ambiance, bonne ambiance ou dans une situation très attendu, on en parle tout de suite avec vous. Venez nous raconter tout ça et nous écouterons également certains Parisiens à ce sujet au micro d'Alix à l'hôpital.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Nous recevons deux invités aujourd'hui pour en parler. Alimata Fofana, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conférencière et auteur de Mariama, l'écorché vive sur la double culture qui est paru chez Cartala. Et aussi Bénédicte Anne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créatrice, animatrice du Café de l'amour, conseillère en relations amoureuses et auteur de Le prochain c'est le bon, sorti chez le Duc S et J'arrête d'être célibe aux éditions Albin Michel, c'est bien cela. Bienvenue à toutes les deux.
Merci.
Merci.
Et pour vous, dans l'idéal, comment doit se dérouler la présentation de son fiancé à sa famille?
Moi, je pense que ça doit se faire en plusieurs étapes. Moi, je parle vraiment d'un point de vue de la double culture, comme nous sommes nés et grandis en France et nous avons des parents issus d'un ailleurs. Et c'est vrai que dans ce que souhaitent nos parents, ils auraient voulu qu'on se mette avec quelqu'un plutôt qu'il leur ressemble. Et donc, quand c'est quelqu'un qui va être différent, nous, dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on convainc déjà la mère. On dissocie le père de la mère. Et donc, on va parler à nos mères, même si dans un premier temps, elles peuvent être contre, elles finissent par accepter la décision des enfants. Alors que le père, c'est une autre paire de manches.
La mère est une alliée.
Exactement.
Bénédicte Anne.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Alimata, c'est qu'en fait, la présentation, c'est la partie visible d'un iceberg.
Oui.
Et derrière la présentation, il y a toute l'histoire familiale. Est-ce que je me suis dressée comme mes parents me l'ont demandé, ou est-ce qu'au contraire, je me suis rebellée? Et mon choix amoureux est soit un choix de rébellion, je ne veux plus de vos injonctions, surtout les tiennes, papa. Je fais mon choix, ou je fais plaisir. Et souvent, je commence par faire plaisir, ensuite je divorce, et après je vis ma vie. Mais d'abord, je satisfais ma famille.
Et nous allons écouter certains messages de nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Uli de N'Djamena, c'est au Tchad. Aujourd'hui, actuellement, j'ai rencontré ma tendre moitié. Je suis dans un véritable tohu-bohu. Je ne sais pas où commencer. Là où je vous assure que nous avons peur de la réaction de nos parents qui risquent de tout remettre en cause. Alors, que faut-il faire pour franchir ce cap? Abdramane de Bamako, au Mali, je suis célibataire et j'ai déjà rencontré mon âme sœur. J'ai déjà tout mis en place. D'abord, j'ai exposé à ma bien-aimée ce que mes parents n'aiment pas et ce qu'ils aiment. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore fait les fiançailles puisqu'elle fait une licence 3 à l'Institut National de Formation de Sciences de la Santé. Je ne veux pas perturber ses études. Je suis actuellement étudiant en master de philosophie. Et Brice de Yaoundé, je n'envisage pas encore le mariage, mais j'ai pris le temps d'observer comment mon frère s'y est pris. Sa future femme s'est d'abord familiarisée avec les membres de ma famille. Pas comme ma future femme, mais comme une amie. Pour finir, elle a gagné l'affection et la confiance de toute la belle famille pour sa bonne conduite, son amour, sa serviabilité. Et si bien que le jour où mon mariage, mon frère nous l'a présenté, nous étions déjà très contents, on la connaissait bien à l'avance. Et par contre, Julie, qui est de Paris, qui nous dit « Je suis juive et je sors avec un noir. Mes parents m'ont dit qu'ils n'accepteront jamais un noir dans leur famille. Je fais comment ?» Alors ?
Ça, c'est une vaste question, en sachant que là, elle dit être juive. Et souvent, en tout cas dans les familles juives que je côtoie, comme la religion se transmet par la mère, oui. Le souci, c'est plutôt quand la mère n'est pas juive. Mais là, à partir du moment où elle est juive, si elle a des enfants, ils vont devenir juifs. Après, c'est peut-être une question de choix, parce que si le conjoint est musulman, c'est-à-dire que là, dans cette partie-là, on transmet la religion par le père. C'est-à-dire qu'il va y avoir un choix à faire entre les deux, parce qu'il y a aussi des juifs noirs, les juifs d'Éthiopie. Et donc, ça va au-delà de la question religieuse. Là, c'est vraiment lié à la couleur de peau et à tout l'imaginaire lié à la couleur de peau.
Alors, il y a aussi quelque chose qui est universel, c'est que par principe, si je suis juive et que je choisis quelqu'un qui va déplaire à mes parents, je suis dans une posture d'opposition, quelle que soit ma couleur de peau. Donc, je pense que dans un premier cas, si je suis juive et que je ne veux pas d'histoire, je choisis soit quelqu'un qui est athée, soit quelqu'un qui est juif. À partir du moment où je suis amoureuse de quelqu'un qui va déplaire à mes parents, c'est quelle est la colère qu'il y a derrière ?
On se met déjà tout le monde à dos.
Mais oui, et surtout à 20 ans, parce que je pense qu'à 40 ou à 50, on n'a plus envie de se battre. Mais à 20 ans, on veut prouver qu'on va faire différent, du style « je vis en Palestine, tu vis en Israël », et puis on va leur prouver qu'on s'aime. Et il y a toute la rage de la jeunesse, parce que j'imagine que ces gens-là, ils n'ont pas 50 ans, c'est plutôt des jeunes. Oui. Donc il y a probablement l'accumulation d'une colère qui a été ravalée pendant des décennies, avec les exigences du père, surtout quand il y a eu une migration, où le père veut vraiment respecter la culture. Et combien de fois, moi, j'ai vu des gens qui se cachaient de leurs parents. Et par exemple, pour une famille maghrébine, être avec un noir, c'est pas possible. Parce qu'il paraît qu'avant, les noirs étaient les esclaves des Arabes.
Et ces couples-là se cachent pour vivre leur relation.
Mais ça marche un temps. Il y a un moment où vous voulez
franchir
le pas. Parce que derrière aussi, c'est assumer.
C'est ça.
Assumer son choix malgré les controverses, malgré les autres, malgré les parents. Oui. Et c'est vrai que là, ça, c'est une autre paire de manches. Mais quand vous parliez aussi sur la question de la double culture par rapport au choix, c'est-à-dire que même nous qui sommes nés et grandis en France, autour de nous, quand vous évoluez dans certains univers, vous ne rencontrez pas forcément des gens qui vous ressemblent d'un point de vue de la couleur de peau ou de la religion. Vous voyez des gens qui vont être différents. Et il y a un moment où c'est autre chose qui fait que vous allez vers l'autre. Vous voyez autre chose. Et c'est vrai que nos parents ont tendance à nous voir à travers leurs yeux, mais du passé.
Et surtout d'une culture qui est restée celle qu'elle était à l'époque. Ils n'ont pas vu que dans le pays d'où ils viennent, ça a évolué.
Les choses ont évolué et les couples et les rencontres aussi ont évolué. Il y a
mais
un mixage,
eux, ce qu'ils
un
veulent,
métissage.
C'est garder ce qu'ils connaissaient, parce que c'est la seule façon de rester fidèle à leurs origines.
Et c'est aussi, quand on dit ils restent attachés à leur culture, à leur tradition, il ne faut pas oublier, ils ont quitté, comme vous dites, l'Afrique, ils sont arrivés en France. Et la seule place qui leur reste, la seule chose qui leur reste, c'est leur culture et leur tradition.
Et la famille qu'il faut
préserver. Leur culture, la tradition qu'il faut préserver. Et dans la société française, on parle de migrants, on parle des immigrés, ce ne sont pas des êtres à part entière, ils n'ont pas une entité propre. Ça veut dire, c'est ça aussi qu'il faut penser, c'est ça à quoi ils s'accrochent, parce qu'il ne leur reste que ça comme identité.
Et avant de poursuivre, je vous propose d'écouter ces réactions de Parisiens au micro d'Alix à l'hôpital.
C'était important pour vous de présenter votre conjoint à votre famille ?
Bah oui, j'aurais pas imaginé sans. Mais en même temps, ma mère avait toujours dit, moi, je laisserai mes filles épouser absolument qui elles veulent.
Donc la jeune fille a plu à vos parents ?
Oui, mon père a accroché tout de suite, c'est vrai.
Vos enfants vous ont présenté leur fiancé aussi ?
Il avait ramené une jeune fille à la maison et puis on n'a pas fait attention. On pensait qu'il rentrait chez elle et trucs. Et puis le lendemain matin, au petit déjeuner, j'étais en petite culotte en train de préparer le petit déjeuner. Bon, c'était amusant. Mais en gros, on s'était fait piéger un petit peu, quoi.
Ça s'est bien passé. J'étais plutôt à l'aise. J'ai d'abord rencontré du coup sa mère.
Est-ce qu'elle vous avait dit ce qu'il fallait ne pas dire ou comment vous comporter
Alors, pas du tout.
Je t'ai pas trop aidé.
La famille de l'autre, ça permet d'avancer dans la relation, de franchir un cap, on va dire. Et ça permet voilà, de montrer que ça commence à être une relation sérieuse.
Mes parents, ils sont très stricts à propos de mon premier copain.
Vous aviez peur un peu ?
Je voulais pas qu'il les stresse beaucoup avec toutes ces questions. Moi, je suis de l'Ukraine et c'est vrai que chez nous, c'est aussi un point important, le lien entre parents et les enfants.
J'ai d'abord présenté à ma mère, bien sûr.
Qu'est-ce qu'elle a dit, votre mère ?
Elle a été très généreuse parce que figurez-vous que l'île est arrivée à une drôle d'histoire. Pour différentes raisons, son père l'avait mise à la porte de chez elle. Et ensuite, je l'ai présenté à mon père. Mon père était un homme assez rigoureux, discipliné et tout. Mon frère, il a fait un bon accueil quand même. Et ma mère m'a dit, mais pourquoi tu veux pas l'épouser ? Je voulais pas me marier à l'époque, vous savez.
Et vous aviez peur de la première rencontre ou c'était quelque chose qui vous était assez égal?
La première rencontre, non, ça me paraissait tout à fait naturel. Moi, je n'étais pas vraiment, mais enfin bon, c'est eux qui étaient, quoi.
Alors, Bénédicte Anne, que pensez-vous de ces réactions de Parisiens?
Bah, déjà, on sent que ce sont plutôt des hommes qui ont amené des personnes d'autres cultures dans leur famille. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour un homme, c'est la relation avec sa mère qui va être tournante. C'est-à-dire, est-ce qu'elle veut l'emprise sur lui et est-ce qu'elle sera jalouse de toutes ses belles filles, quelle que soit sa couleur, ses origines, sa culture,
oui.
Ou est-ce qu'elle a envie que son fils vive sa vie? Et très souvent, moi j'ai vu des cas, et là c'est universel, où la mère critique tellement ou met tellement le bordel dans la relation, elle essaie de faire capoter la relation pour garder son fils pour elle. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive quand même, en tout cas parmi les gens qui viennent me voir,
oui.
Forcément c'est parce qu'il y a un problème, sinon ils viendraient pas me voir. Faut pas oublier qu'il y a plein de couples mixtes qui fonctionnent très bien. Et quand un couple mixte vient me voir parce que ça ne fonctionne pas, c'est souvent une histoire de sexualité qui n'est pas la même. C'est généralement, monsieur a des besoins et il va voir hors mariage comment nourrir ses besoins. Et madame se plaint parce que monsieur est très demandeur et surtout la trompe. C'est ça que je constate. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas non plus. Hein.
Alimata Fofana, sur ces réactions de Parisiens, ces hommes qui racontaient comment ils ont organisé ces rencontres.
J'ai le sentiment que de la part d'un homme, c'est plus facile. Oui. Moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est plus simple, c'est plus facile. Et il ne faut pas oublier, moi je parle aussi pour les jeunes filles, pour les femmes, derrière, il y a toute l'éducation qu'elles ont reçue.
Oui.
Et donc, aller vers l'autre, c'est aussi déconstruire aussi ce qu'on vous a mis dans la tête depuis que vous êtes enfant.
Surtout les musulmanes.
Je dirais même, ça va au-delà, je dirais, de la question religieuse.
Mais du coup, à partir de quand il faut prévoir la rencontre? Au bout de combien de temps de relation?
Alors après, c'est vraiment personnel, oui. En tout cas. Moi, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu voir, moi, je pense qu'il faut prendre son temps. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on veut que tout aille très, très vite. Voilà, on ne prend pas forcément le temps. Pour ma part, je pense qu'il faut prendre le temps. Serait-ce que de connaître la personne avec qui vous êtes.
Être sûr de rester avec.
Oui, déjà. Voilà, c'est ça. Déjà, il faut apprendre à la connaître, quoi. Suite à cela, c'est bien d'échanger pour savoir quels vont être les écueils des deux côtés. Pour pas être surpris que l'autre... Moi, je pense qu'il faut même préparer la personne.
Ça veut dire qu'on se parle vraiment, franchement, avant d'organiser quoi que ce soit.
Ah oui, exactement. On se parle franchement, on dit les choses. Je pense qu'il mieux vaut que tout soit dit. Et dans un second temps, on prépare la personne à rencontrer. C'est-à-dire qu'il y a des choses à ne pas dire. Quelque chose de très bête, mais serait-ce que dans sa manière de s'habiller, ça en dit long sur la personne. Et si vous êtes, si vous allez dans une famille ou plutôt pratiquante, mieux vaut éviter de venir en mini-jupe.
Voilà,
c'est des choses basiques, mais
il faut baliser le terrain en fait.
Pour moi, oui.
En fait, il faut faire le gendre ou l'épouse idéale par rapport à la culture de l'autre. C'est j'arrive, j'ai fait profil bas, je parle pas beaucoup, j'écoute, j'évite les écueils, je ne pose pas de questions indiscrètes, je ne soulève pas les secrets de famille, je ne demande pas comment était mon chéri quand il était petit ou ma chérie. J'évite d'être trop, voilà, je suis quelqu'un de sobre et je regarde ce qui se passe. Et je vais sentir très vite si les autres m'accueillent ou au contraire, je sens une animosité. Si je sens une animosité, je laisse glisser, je mets mes plumes de canard. Et si je sens que je suis accueillie, alors je m'abandonne un peu. Mais attention, ça peut être une manipulation. Je peux te faire croire que tu es bien pour derrière, paf, te saquer et raconter à toute la famille comment tu es quelqu'un d'ingrat et de pas adapté à mon fils ou à ma fille.
Et moi, je dirais même, peut-être rencontrer les frères et sœurs avant,
avant les parents.
Exactement. Rencontrer les frères et sœurs avant les parents. Moi, je vois avec ma belle-sœur, ça, c'est ce qui s'est passé. Moi, je l'ai rencontré. Moi, j'ai vécu un certain temps à l'étranger. Et c'est quand je suis revenue, les choses ont évolué et tout. Et j'ai rencontré ma belle-sœur. En amont, on a échangé et tout. Et donc, même quand elle arrivait dans la famille, elle savait qu'elle avait quelques alliés.
C'est ça.
Et quand la rencontre, le moment de la rencontre vient, est-ce qu'on doit, avec son partenaire, choisir comment on doit s'habiller? On se dit, lui, il connaît bien ses parents ou elle connaît bien ses parents. On doit ensemble choisir ce qu'il faut mettre comme vêtements pour y aller.
À mon avis, je pense que... Surtout les filles, puisque c'est celles qui sont celles qui sont les plus concernées. Je pense qu'elles savent, elles peuvent. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui est important, c'est qu'elles puissent compter sur leur partenaire pour les défendre et pour ne pas les planter.
Oui.
Parce que imaginons qu'on se retrouve dans un dîner où la belle-fille est attaquée. Comment va réagir le chéri? Est-ce qu'il va se mettre du côté des parents ou souvent ne rien dire? Et où est-ce qu'il va au contraire soutenir? Et alors, le problème, c'est que s'il soutient trop fort, il s'oppose aux parents, ce qui n'est pas bon non plus pour la rencontre. Donc, il faut trouver un juste milieu pour éviter la tension, qu'elle se sente soutenue, parce que si elle n'est pas soutenue, c'est clair que ça va être très compliqué.
Et je pense qu'il y a un moment donné, on parle quand même d'adultes, J'espère qu'on n'en arrive pas là. Mais pour ces personnes-là, il y a un moment où il faut taper du poing sur la table en disant bah, « c'est comme ça ». Et moi, j'ai vu même dans ma propre famille, hein, quand la personne a dit « c'est comme ça » et qu'il y avait la date de mariage et tout, et ben, certains parents ont besoin parfois qu'on leur prenne la tête et qu'on les mette sur le fait accompli. Et ce qui est surprenant, c'est qu'au fil du temps, moi, j'ai vu que le père a fini par accepter. Hein. Comme quoi ?
Ben, y a deux façons de faire. Soit les parents finissent par accepter la pièce rapportée et ça se passe bien, surtout quand il y a des enfants qui naissent. Soit, au contraire, on continue à la déblatérer. Parce que moi, j'ai vu dans ma famille, l'épouse était donc exotique, des Philippines en fait, et elle continuait à être toujours critiquée par derrière. Et en fait, tout ce qu'elle faisait était contrôlé. Mmh. Et en fait, on attendait le moment où elle allait faire la faute.
Mmh. Oui, on l'attendait au tournant, comme
c'est
on dit.
C'est ça, exactement.
Et quand on y va, et peut-être que ça dépend des cultures, on y va avec un présent ou parfois c'est mal vu?
Non, le présent, c'est toujours la moindre des choses. On arrive chez quelqu'un pour un repas, on apporte quelque chose, une bouteille de vin ou à manger. Mais après, je crois que c'est aussi une histoire de culture. Mmh. Parce que, par exemple, dans les sociétés maghrébines, le monsieur, il arrive, il y a la cérémonie du thé, qui est déjà la demande au père. Donc c'est déjà, c'est pas un présent, mais c'est un rituel. Mmh. Donc parfois, c'est un rituel qui va être un certain nombre d'étapes à respecter. Parfois, c'est juste ne pas arriver les mains vides. Et après, ça dépend vraiment des familles et des cultures, je pense. Mmh. C'est très personnel.
Et où est-ce qu'il faut aller, par exemple, la première rencontre, c'est à la maison ou on se dit en terrain neutre, on va dans un restaurant.
En tout cas, dans nos familles, il faut aller à la maison. c'est une obligation, c'est aller à la maison. Et je dirais même dans nos familles, avant que ce soit une rencontre entre les deux personnes qui vont se mettre ensemble, généralement c'est celui qui représente le père qui va à la rencontre de la famille de la fille. C'est pas directement dans nos familles, et c'est encore comme ça. Même si on vit aujourd'hui en Occident, ça reste vraiment, et c'est ancré. C'est pas le gars qui arrive chez toi comme ça. Non, c'est le représentant de cette personne-là.
Mais peut-être plutôt quand c'est une famille un peu difficile, mieux vaut ne pas aller tout de suite à la maison. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Ça dépend des cultures, mais ce que dit Alimata, c'est très intéressant parce qu'autrefois, les mariages étaient arrangés. Alors, ils étaient arrangés donc dans toute la culture africaine, etc., mais aussi en France, mais d'une façon subtile. C'est-à-dire que les parents des deux familles se rencontraient pour savoir si la pièce rapportée était digne d'entrer dans la famille. Et une fois sur deux, évidemment, ça ne l'était pas. Il y en avait un qui était d'un milieu socioculturel plus élevé que l'autre. C'est ce qu'on appelle déroger. Et ensuite, c'était des problématiques qui duraient des années et des années, où la pièce rapportée, qui n'était pas du même milieu, et qui avait volé l'argent de l'autre, parce que peu importe le sexe, était critiquée. Et ça se transmet aux enfants, voire aux petits-enfants. Et très souvent, on se retrouve en loyauté avec un père ou une mère qui a été pauvre ou qui a payé très cher le fait de devenir riche, ou le contraire. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas anodin, le choix amoureux, parce que ça se répercute souvent sur deux ou trois générations.
Et je vais vous lire encore quelques messages de nos auditeurs sur Facebook. On a eu beaucoup de messages sur ce sujet. Eric de Dakar au Sénégal. Ma vie est ce qu'elle est, mais c'est ma vie. Donc si ma famille approuve ou non, je m'en fous complètement. Voilà, lui, il a décidé d'assumer. Amidou, marié depuis 3 ans, il est à Tawa, c'est dans le nord du Niger. Le père de ma femme était décédé au moment du mariage. Elle m'a donc présenté à son oncle. C'était une preuve, car ça tient à un fil. Un détail peut faire tout échouer. Vous êtes jugé sur le tout. Et Youss de Lomé au Togo, il nous dit, en Afrique, cette épreuve est difficile quand on est pauvre. Sinon, on ne respire pas. Si on respire bien, pas de souci. Ça se passe comme si on buvait de l'eau. Ali de Kaya au Mali. En 2017, j'ai voulu présenter celle que je souhaitais prendre en mariage, mais je n'ai pas pu le faire parce que ma maman m'en avait déjà choisi une. Au début, je montrais les photos de la fille à ma mère, mais elle ne les regardait même pas. C'est une fille intelligente, on a fait l'école ensemble. Dans notre milieu, c'est la famille qui choisit très généralement la fille que l'on doit prendre en mariage.
Oui, mais ça existe toujours, ça. Oui. Ça existe toujours, parce que là, ça va au-delà de deux individus qui se lient. Là, ce sont deux familles qui se rencontrent et qui se lient. Et derrière ça, c'est on ne se marie pas pour soi, mais on se marie pour consolider les liens familiaux. Ça veut dire que le mariage, c'est pas oui, on s'aime et tout. Non. C'est qu'il y a un mariage. Et derrière le sens de tout cela, c'est vraiment la famille au sens large. Ça veut dire que l'objectif, c'est vraiment de garder cette espèce de lien familial coûte que coûte. C'est pour ça qu'il ne choisit pas.
On sent encore qu'il y a une emprise des parents. Hein.
C'est de la famille, ça va au-delà des parents, parce que vous vous rendez compte que ça se transmet de génération en génération. Vous demandez à ses parents à lui, et je pense que c'est exactement la même chose.
Avant, en fait, on se mariait avec quelqu'un qui allait agrandir notre terrain. C'était d'abord ce qu'on allait pouvoir conserver. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on se choisit, mais finalement, on peut se tromper 3 ou 4 fois dans une vie. Donc, on va avoir la première fois la présentation qui va être d'une grande violence. Et puis, d'histoire en histoire, ça va finir par s'atténuer. Parce qu'on aura eu le gros orage la première fois. Donc, la deuxième fois, ce sera plus qu'une pluie. Puis, la troisième fois, ben, ça passera un petit peu à la trappe parce qu'il y aura d'autres enfants, d'autres urgences. Il ne faut pas oublier qu'au bout d'un temps, les parents vieillissants s'adoucissent pour la plupart.
Ils finissent par accepter. Nous avons une auditrice en ligne, Marina, depuis Abidjan, qui est en couple avec un homme blanc depuis 5 ans. Bonjour, Marina.
Bonjour, la voisine Pénaïs.
Bienvenue, on vous écoute.
Bon, comme je l'ai dit sur Facebook, je partage ma vie avec un homme blanc qui connaît toute ma famille et qui souhaite que j'aille connaître les tiens, surtout qu'il a une fille de 9 ans. Moi, j'appréhende beaucoup, donc je voulais vraiment des conseils pour m'y prendre étant là-bas.
Chers invités, la question de Marina, c'est de savoir comment faire pour être acceptée par la famille de son fiancé, qui est un homme blanc. Sa famille connaît déjà cet homme, mais elle appréhende plutôt mal le fait de connaître la famille de cet homme.
De toute façon, une fois qu'ils sont ensemble, et ça fait 5 ans, les choses sont là. Donc la seule chose qu'elle puisse faire, c'est être gentille. Mais attention, à force de vouloir faire plaisir, parfois on en fait 10 fois trop.
Et oui. En plus, il a son copain, il a une fille de 9 ans, donc oui. Elle se pose la question si elle va se faire accepter aussi par cet enfant. Oui. Il y a la famille et il y a aussi l'enfant qui est autour.
C'est vrai que ce n'est pas évident aussi, serait-ce que pour l'enfant, de voir son parent avec une autre personne. Et je dirais, par rapport à la famille de cette femme, de cette auditrice, est-ce que son conjoint en a parlé déjà? À savoir que c'est
vous
une femme...
Vous pouvez lui poser la question, Marina. Est-ce que
vous êtes là? Marina?
Bon, moi, j'ai soulevé le problème. Quand j'ai soulevé le problème, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, que ça ne puisse pas passer, parce que lui, il est prêt. C'est ce qu'il m'a dit.
Est-ce que la famille est au courant de votre existence?
Plus ou moins, puisque sa sœur me connaît.
Comment j'ai pas
vu? Sa sœur, elle connaît la sœur du monsieur.
Ah, d'accord,
elle
a la préparation qui est en train de se faire, quoi.
Ça se fait petit à petit.
Est-ce que vous avez déjà essayé de discuter avec la sœur pour savoir comment faire pour approcher la famille, Marina?
Bon, avec elle, le courant passe très bien.
Ben, profitez alors. Demandez-lui des conseils sur les parents.
Okay.
Peut-être qu'elle sera un soutien pour vous. Hein.
Ben, je pense vraiment que la sœur peut être vraiment un allié pour vous. Hein. Et puis, si vous entendez bien, quoi.
Ce serait intéressant aussi, Marina, de demander quand votre compagnon vous dit que ça se passe très bien, qu'il n'y a pas de problème, demandez-lui quand même qu'est-ce que tu veux dire par il n'y a pas de problème. Est-ce qu'ils savent que, est-ce que ça les dérange? Est-ce qu'ils sont racistes? Est-ce qu'ils rêvaient pour toi de quelqu'un d'autre? C'est intéressant aussi de sonder le terrain. Mais si ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, à mon avis, c'est une affaire qui roule. Ben oui.
Merci beaucoup, Marina.
Ok, merci. À vous aussi.
Merci. Nous avons un autre auditeur en ligne, Daniel de N'Djamena. Il se marie dans 2 mois. Bonjour, Daniel.
Bonjour, les voisines.
Et félicitations pour votre mariage, déjà.
C'est ça, félicitations.
Merci, c'était moi, bonne chance, plutôt.
Ben, expliquez-nous, on vous écoute. Vous allez vous marier et on imagine que tout s'est bien passé.
Dans un grand combat, bien sûr.
Ah, on vous écoute alors.
Au standard que la présentation n'a pas été facile. Puisqu'on vient de deux mondes un peu différents, la cohabitation des cultures pose problème, mais l'amour a atteint de faire notre mieux pour qu'on aboutisse.
Vous venez de deux mondes différents, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on a des ennemis différents.
D'accord.
Et les pratiques se diffèrent aussi, et comme mes parents sont vraiment contre ça, ils veulent que je me marie à une fille qui est de mon ennemi. Et mon choix, comme c'est arrivé différemment, c'est pas facile.
Et dans la famille de votre fiancé, c'est accepté aussi ou pas? Ou elle aussi,
non,
elle
elle
a des problèmes?
Problème.
Pour elle, il n'y a pas de souci.
Elle n'a pas de souci. Seulement que pour les procédés, ça diffère et puis les parents refusent d'accomplir certaines choses.
Et comment vous avez géré alors?
Et c'est toujours par mon intervention, comme c'est moi qui désire me marier, je suis obligé de faire ce qui ne répond pas à la norme dans notre ethnie. Par exemple, certains procédés qui n'existent pas dans mon ethnie, je suis obligé d'assurer moi-même.
Comme quoi, par exemple?
Certains rites.
D'accord, des rites traditionnels.
Oui, effectivement.
Mais est-ce que vous avez eu de l'accompagnement quand même de certains membres de votre famille pour accomplir ces rites ou vous étiez seul?
J'ai des amis.
Ce sont vos amis donc qui ont pris la place de votre famille
Effectivement. Ça veut dire que mes amis se sont approchés de certains parents pour les expliquer. Voilà, mon affaire est un peu sérieuse, donc certains sont obligés de nous soutenir comme ça.
Vous voyez, c'est quand on parle de différence, vous voyez là, c'est ethnique. C'est
oui,
c'est dans un seul et même pays.
Oui.
Alors, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que certes, les rites sont différents, les croyances, elles peuvent être différentes. Et c'est ça pour les parents, s'ils ont le sentiment de renoncer à une partie d'eux-mêmes.
Une trahison même.
Et il y a un conflit de loyauté pour cette personne.
Et finalement, Daniel, vous vous mariez dans 2 mois. Vos parents, ils seront présents à ce mariage ou comment ça va se passer?
Ils seront présents.
Ils ont fini par accepter alors?
Oui, certains sont déjà avec moi.
J'ai entendu.
Certains membres de sa famille se sont finalement alliés à lui.
Oui, certains, mais pas tous, quoi.
Oui.
Après, ça dépend qui sont ceux qui se sont alliés, parce que c'est quand même le père, le morceau. Et c'est souvent quand le père décède qu'on peut commencer à avoir plus de liberté.
Et là, moi, je m'interroge à savoir, là où vous allez habiter avec votre future épouse, est-ce que ça va être proche de votre famille ou non?
Pardon?
Là où vous allez habiter après votre mariage avec votre épouse, est-ce que ce sera dans le même endroit où vit votre famille?
Non, pas dans le même endroit. Parce que moi, je suis ici à la capitale. Et ils sont dans les provinces.
Eh ben, c'est une très bonne chose pour votre épouse.
vous dites au fil du temps, tout le monde finira par accepter ce mariage.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Daniel.
Merci.
Il y a un truc auquel je pense, c'est que les belles-mères, parfois, sont très intrusives. Et elles passent leur temps à avoir des clés, à aller faire le ménage. Moi, j'ai ça souvent.
Ouais, c'est ça, ouais, j'ai vu ça.
Elles font le ménage, elles font les courses. Enfin, elles se rendent indispensables et elles vivent par procuration à travers le nouveau couple. Et c'est en général la mère du garçon. Soit elle refuse la fille, soit elle va la prendre un peu comme si c'était sa fille. Oui. Mais dans les deux cas de figure, on est presque dans un climat incestuel.
Et nous allons écouter tout de suite une musique.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Je suis passé devant toi, arrêté sur image. Tu regardais vers la plage sans faire attention à moi. Tu ne cherchais pas à faire illusion ou impression, caché derrière tes solaires. Ni bon ni mauvais garçon, combien j'ai aimé ta façon de ne rien faire. 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 Je suis partie sans rien dire. Chercher à te retenir, mais j'ai vite regretté. Sous mon cœur en vert teinté, j'ai dansé sans regarder les autres visages. J'ai parcouru tout l'été à me dire dommage. Combien j'ai haï ma façon de ne rien faire. Ma façon.
Pauline Croze avec cette chanson intitulée « Ne rien faire ». Tout de suite, nous écoutons un auditeur qui nous a laissé un message via WhatsApp.
Moi, c'est Amadou Sylvain depuis le Cameroun. Moi, je suis du Grand Nord. Et tu veux présenter ta femme ou ta future femme à ta famille. Ce n'est pas toute une cérémonie qu'on peut organiser. Il suffit juste que tu invites toi-même ta copine à la maison. Elle vient, elle reste, elle passe du temps, par exemple, pendant les week-ends. Elle passe le temps avec ta mère. Elle aide à faire la vaisselle, à préparer, à faire les légumes à la maison. Tous les travaux domestiques quoi, que la mère peut faire. 2, 3, 4 fois, ta mère même va te poser la question. Elle, c'est ta femme ou bien c'est elle que tu as choisi. Donc, tu n'as même pas besoin de dire que voici ma femme que je veux. Donc, c'est à ta famille de découvrir. Donc, tu la présentes seulement de manière pas totalement directe, mais quand elle reste avec la famille, elle fait les choses, mais la famille doit se poser la question. Elle, c'est qui? Et c'est simple chez nous comme ça.
Cet auditeur, il a décidé d'intégrer doucement, petit à petit, sa fiancée qui venait déjà à la maison, pour aider la famille dans quelques tâches avant de faire les présentations officielles. C'est un bon procédé.
C'est intéressant.
Ça peut être intéressant, sauf qu'on peut très vite se retrouver la bonne de la belle famille.
Oui.
Et moi, j'ai vu ça. J'avais une Chinoise, bon, c'est pas l'Afrique, mais elle a épousé quelqu'un qui venait d'une des... Enfin, pas des ethnies, mais des groupes. C'est qu'en Chine, il y a des grandes diasporas. Et donc, elle a été pendant 10-15 ans à faire la bonne. Et le problème, c'est que pour se faire admettre de la belle famille, on est souvent obligé de passer par là, surtout en Afrique. Moi, j'ai remarqué ça. Il y a deux choses. Soit on devient un hôtel et on reçoit toute la famille et tous les amis de la belle famille, quand on habite par exemple en France. Soit on s'occupe de tous les mômes, etc. Et on fait tout le travail de garderie, d'aller arroser les plantes l'été, etc. Donc, il faut faire très attention parce que plus vite je vais habituer la belle famille à être une bonne gratuite, plus vite ils vont en profiter.
Et parmi les difficultés qui se posent également, on peut avoir face à nous des familles qui font des comparaisons avec la personne, l'ex. Et du coup, ces familles ne vont jamais accepter celle qui va venir avant parce qu'elles ont en tête toutes les qualités que l'ex avait. Comment gérer dans ces cas quand c'est comme ça?
Sauf qu'avant, l'ex, elle était très critiquée. Maintenant qu'elle n'est plus là, on l'a... piédestalise, on l'encense exactement, et ce serait pareil avec la suivante. Donc en fait, ça, c'est la posture de la mère qui, de toute façon, trouve qu'aucune belle fille ne sera à la hauteur.
Ouais, c'est ça, c'est une éternelle insatisfaite.
Mais en cas de refus complet, la famille ne veut pas rencontrer votre moitié, comment on fait?
Bah, faut choisir.
C'est ça, être adulte. Hein. Être adulte, c'est faire des choix. Et parfois, les choix sont douloureux. Mais après, c'est à savoir si... Moi, ce qui m'a frappée, c'est souvent au niveau des femmes ou des jeunes filles, elles sont capables d'aller très loin pour l'être aimé. Et même si les parents vont s'opposer, parfois elles vont quitter, il va y avoir des ruptures sèches, parce que pour elles, c'est soit lui ou soit ces personnes. Mais dans le sens inverse, ce n'est pas forcément le cas. De ce que j'ai pu observer, même s'il y en a certains qui peuvent aller loin et taper du poing sur la table, il y en a d'autres qui vont renoncer à leur moitié parce que la famille n'accepte pas. Mais après, c'est une question de choix, c'est une question de... Après, c'est aussi voir ses parents d'adulte à adulte, quoi.
En même temps, c'est tout à fait normal, puisque comme la fille est plus sous pression que le garçon, parce que même dans les cultures les plus ouvertes, on empêche un peu les filles de sortir, on s'éloigne du danger, alors les garçons sont toujours beaucoup plus libres. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné... Je ne sais plus ce que je voulais dire.
Mais après toutes ces difficultés culturelles, les
oui,
problèmes
oui, oui,
de
c'est
religion...
Attendez, c'est super important ce que je voulais dire. C'est que la fille va se battre davantage puisqu'elle a plus de pression. Du coup, quand elle va choisir un partenaire dont elle va tomber être dingue, c'est en général un bad boy. C'est quelqu'un qui n'est pas recommandable. Donc les parents, techniquement, ont raison. Elle va partir avec lui, elle va faire les 400 coups. Et ensuite, elle ne peut pas revenir en arrière puisque les parents vont dire « Tu vois, on avait raison. » Donc elle est coincée dans un choix. Donc soit elle reste avec lui et elle en baffe toute sa vie, soit au contraire, elle le quitte et elle a honte, donc elle ne peut pas revenir. Alors que le garçon...
D'où elle revient demander l'excuse à faire la réconciliation
le temps comme ça,
hein, avec la famille.
Il y a des cas comme ça, mais ce n'est pas forcément tout le temps ce cas-là. Dieu merci, oui, parce que sinon... Ça, parfois, ce sont des choix uniquement. C'est ce qu'a dit l'auditeur précédent. Parfois, c'est une question d'ethnie. Parfois, c'est parce qu'il n'y a pas la même religion. Mm. Parfois, c'est des choses. C'est juste ces choses-là qui empêchent le mariage et les certaines femmes vont décider.
Mais après tous ces problèmes, comment faire pour faire accepter sa moitié? On fait un choix et finalement, on entame des négociations pour faire accepter.
Déjà, il faut être sûr de son choix. Je crois que c'est la base. Il faut être sûr que c'est la bonne personne parce que si c'est pour faire un se battre pour imposer quelqu'un qu'on va quitter quelques temps après, on est en difficulté puisque les parents vont dire « on te l'avait dit » et on ne veut pas avoir honte. Donc, et une fois qu'on a pris la décision, si monsieur, parce que c'est quand même lui, parce que c'est plus facile pour une femme, enfin, disons que si monsieur doit être très clair avec sa mère, et si monsieur est clair, et que si ils ont les alliés, les cousins, la fratrie, etc., et qu'on fait ça par étapes, et qu'on est gentil, en principe, ça va finir par... De toute façon, c'est l'enfant qui règle tout.
Et nous avons en ligne un auditeur de Kinshasa, c'est un RDC, Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc.
Oui, bonjour RFI, bonjour.
Bienvenue, racontez-nous, on vous écoute. Vous êtes déjà fiancé?
Oui, j'ai une fiancée, je suis en République démocratique du Congo. En fait, je suis du Kassai central. J'ai dit Kassai occidental.
Oui, mais comment ça se passe, comment ça s'est passé pour vous avec votre fiancé, la présentation?
Oui, la présentation au niveau de ma famille, c'était normal. Mais arrivé dans la belle famille, c'est là où j'étais foudroyé avec des questions et tout. Ce n'était pas facile, donc c'était vraiment difficile pour moi.
C'est quel genre de questions on vous posait, par exemple?
Des questions du genre... Est-ce que vous avez du travail? Est-ce que comment à la question vous avez du travail, j'ai répondu non, je me débrouille. Comment vous vous débrouillez? Comment vous allez prendre soin de votre femme? Tout ça, j'ai répondu même pour faire la coordonnerie, je préférais le fait que la femme soit à l'aise des enfants. Donc c'était des questions vraiment psychologiques, on peut dire.
Et finalement, ça s'est bien passé? Vous avez passé le test?
Les tests étaient tellement difficiles, mais en fait, dans tout, ça s'est bien passé. J'ai été accepté et je peux signaler avec les soutiens forts de la fille, de la fille.
C'est bien d'avoir le soutien de sa fiancée.
Ah, c'est essentiel, c'est même primordial, je dirais. Mais quand monsieur disait par rapport aux questions, moi je trouve ça... D'un côté, les parents, ils cherchent à protéger leur enfant.
Une
derrière,
sécurité.
C'est ça, une sécurité. Et moi, je trouve ça tout à fait légitime que le parent s'interroge à savoir si cet homme, il a un emploi ou non, s'il est capable de subvenir à ses propres besoins et peut-être à celui de la femme, si par la suite, ils ont des enfants. Pour moi, je trouve que cette question
est essentielle
et moi, ça ne m'étonne pas.
Et normalement, au moment de la rencontre, les parents savent déjà que le monsieur se débrouille. Oui. Parce qu'ils ont posé des questions. La première question qu'on pose à nos enfants, c'est il est libre, il fait quoi dans la vie? Parce qu'il y a aussi l'histoire de partager sa moitié, qui est une autre, qui est aussi très culturelle. Hein. C'est
Jean-Luc,
encore d'actualité.
Jean-Luc, vous avez autre chose à ajouter?
Oui, même après les deux questions, là, il y avait aussi une autre question. Ça s'est basé sur la polygamie. On m'a posé, dans votre bout du Kassai, vous êtes polygame. Et ça ne se fera pas qu'après avoir pris notre fille, vous allez encore chercher une autre de votre tribu, parce qu'en fait, on n'est pas de la même tribu. Hein. Et j'ai répondu non, moi, dans ma famille, et c'est ce qui est même vrai, mes grands-parents, mes parents ne sont pas polygames. Comment moi, je peux devenir polygame? Donc, je serai le premier à l'être dans la famille.
Vous avez quelque chose à ajouter à ce témoignage sur la polygamie, la belle famille qui voudrait savoir
ils protègent leur enfant parce que là, ils vont confier leur fille à cette personne et ils s'interrogent sur le devenir de ce couple et ils ont peur que leur fille souffre du fait qu'il y ait une coépouse. Parce que si, comme il dit, cet homme dans l'ethnie, la polygamie existe, c'est normal que les parents se posent cette question.
Puis n'oublions pas qu'il y a la polygamie officielle et la polygamie officieuse. C'est-à-dire que le monsieur, il est officiellement monogame,
oui.
Mais il va faire de la contrebande. Il va donc bander ailleurs. C'est un grand classique, ça.
Il a des relations, comme on dit, deuxième bureau, troisième bureau.
C'est ça, exactement.
Et nous allons tout de suite écouter un reportage, un témoignage d'un couple, Louise et Hugo, étudiants de 20 et 23 ans. Ils sont ensemble depuis une petite année. Et c'est Louise qui a décidé de sauter le pas en premier et de présenter sa moitié à ses parents. Comment ils se sont préparés? Est-ce que c'était une étape importante ou une simple formalité? Comment l'ont-ils vécu? Raphaël Constant les a rencontrés à Paris chez eux.
Hugo compte beaucoup pour moi, donc c'était important qu'il rencontre ma famille, le milieu dans lequel je vis, enfin vraiment qu'il soit proche de mes parents et que ça se passe bien. En fait, on est très famille et c'est très important que ma famille accepte l'homme avec qui je suis. Donc forcément, j'étais un peu stressée, surtout au niveau de mon père, parce qu'il est assez impressionnant. Donc, il fait 1m90, 110 kg. On n'a pas forcément envie de le présenter comme ça. Il est assez froid, normalement. Et puis, au final, bah, ça s'est très bien passé. Et maintenant, ils ont adopté Hugo. Donc, c'est plutôt bien. Je suis contente.
Je pense que c'est quand même important de rencontrer les parents de sa compagne. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien fonctionner au feeling, laisser faire les choses de manière naturelle, donc je me suis pas du tout pris la tête et je suis vraiment allé en fait à Lille, donc j'ai pris le TGV pour aller rencontrer les parents de Louise, et ça s'est bien passé.
Et au bout de combien de temps, Louise, vous avez présenté Hugo à vos parents?
Il me semble que ça faisait 3 mois, parce que du coup, en fait, on ne pouvait pas dormir l'un chez l'autre, parce qu'avant, je vivais chez ma grand-mère, donc c'était un peu compliqué. Et sachant que mes parents habitent en province, forcément, du coup, il était obligé de venir à la maison, n'allait pas prendre un hôtel, etc. Du coup, il est venu visiter Lille et il a dormi chez moi.
Et à quel moment, justement, vous avez senti qu'il fallait présenter votre compagnon à vos parents?
J'ai senti au bout, je pense, du deuxième mois, troisième mois, on avait pas mal de projets en tête ensemble et du coup je me suis dit, bah faut qu'il voit mes parents. Et j'ai dit à ma maman, bon bah faut que tu le rencontres, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et du coup, le soir on a parlé autour d'un repas avec mes parents et puis je leur en ai parlé, je leur ai parlé un peu ce qu'ils faisaient, un peu son milieu de vie, etc. Et puis au final, ils ont dit, bon bah à voir alors.
Alors comment ça s'est fait justement, Hugo?
Les parents de Louise sont venus nous chercher à la gare et on allait au restaurant. Donc dans un restaurant typique du Nord où on mange des spécialités lilloises. Alors le plat qu'on allait commander, moi je voulais simplement prendre un plat typique du Nord. Donc si je me souviens bien, c'était un Welsh. Donc c'est du pain imbibé avec de la bière et du fromage, donc du cheddar il me semble. C'est assez particulier, mais c'est... au moins je respectais la tradition et puis au final c'était bon, donc voilà. Et on a discuté voilà, autour d'un bon repas. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour connaître des gens et pour une première rencontre.
Ouais. Pour moi, c'était plus facile qu'ils rencontrent mes parents en terrain neutre, on va dire, que déjà dans le concon, l'amener chez nous, où on a nos petites habitudes, où chacun machin, a ses petites habitudes. C'est vrai que c'est quand même plus facile d'être en terrain inconnu.
Et alors justement, Louise, est-ce que vous avez briefé les deux parties, vos parents, votre compagnon? Et qu'est-ce que vous leur avez dit?
Ma maman est assez relaxe, c'est cool, et de toute façon, elle veut que mon bien-être, donc ça va. Mais mon père, je lui ai dit, bon, sois gentil.
Pourquoi sois gentil?
Bah, parce qu'il peut être un peu protecteur, on va dire. On est deux filles, donc il n'a pas de garçon, et c'est vrai que je suis la dernière de la famille, donc attention à celui qui m'approche, on va dire. Non, du coup, je l'ai briefé, je lui ai dit, essaie d'être calme, pose pas trop de questions, etc. Et puis au final... Soit ça passe, soit ça casse.
Et après, le week-end, parce que finalement, c'était une rencontre au restaurant, mais ensuite, vous avez donc logé chez les parents de Louise tout le week-end.
Tout à fait. Donc, j'ai logé pendant donc, 2 jours chez Louise. On a discuté, on a parlé des actualités, ce genre de sujets, en fait, généraux. Hein. Comme je ne les connaissais pas, voilà, on a parlé de mes études, de leur métier, ce genre de choses-là.
Parce que ça peut être un peu impressionnant d'être avec sa belle famille dès le petit déjeuner, dès la première rencontre.
Oui, c'est vrai que croiser ses beaux-parents le matin au réveil, c'est pas forcément évident. On s'en est plutôt bien sortis, puis c'est assez sympa à ce niveau-là.
Est-ce que vous les avez tutoyés, vous voyez?
Non, vous voyez quand même. Vous voyez d'ailleurs, même aujourd'hui, je continue de les vous voyer.
Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous revient en tête, Louise, particulièrement?
Bon, on sortait du resto, on allait à la voiture... Et avec ma maman, on traverse sans faire attention si c'est rouge ou si c'est vert. Et puis on voit les deux garçons qui restent derrière parce qu'ils attendaient que le petit bonhomme soit vert pour traverser. Et je me suis retournée, je parlais avec ma maman et je me suis retournée, je les ai vus rigoler ensemble. Et du coup, ça, je me suis dit, bon, ouais, c'est bon. Je pense que du coup, il est accepté dans la famille et ça m'a fait beaucoup rire ce moment-là d'ailleurs. Pour moi, c'est vraiment un test. Il a rencontré maintenant à peu près toute ma famille et... Moi, ça a été un grand test parce que on est issu d'une famille italienne, donc les traditions, c'est très important pour nous. Et on a été élevés dans la tradition italienne. Et je sais que si Hugo ne passait pas auprès de ma maman ou de mon papa ou de mes cousins, ça allait être un calvaire, sachant que j'ai mon cousin qui habite juste à l'appart à côté. Donc, ouais, c'est. Mais du coup, pour moi, c'est un grand test. Et je sais que si ça s'était pas bien passé, on serait peut-être plus ensemble avec Hugo. Mais maintenant, il le réclame, donc bon, c'est une guerre de gagner, on va dire.
Le témoignage de Louise et Hugo, pour qui ça s'est plutôt bien passé, même si Louise a dû demander à son père en amont d'y aller doucement avec son fiancé.
Ce que j'entends, c'est que d'abord, ils nous ont pas dit s'il avait dormi dans la même chambre que Louise ou s'il avait dormi dans une chambre d'invité. Mais ce que j'entends, c'est quand même pour la génération, les jeunes, et pour les couples mixtes, c'est quand même beaucoup plus facile qu'avant. Parce que moi, quand j'avais 20 ans, quand j'étais chez ma belle famille, on avait chacun notre chambre tant qu'on n'était pas mariés, et on se rejoignait la nuit en douce. Donc tout ça, à mon avis, c'est en train de s'ouvrir de façon importante, et ça dépend vraiment de la posture que j'adopte et de ce que je veux vraiment.
Mais dans plusieurs pays africains, c'est pareil. Hein. On est en famille jusqu'à ce qu'on soit marié.
Oui, c'est pour ça que
dort
quand on parle
avec son fiancé tout de suite.
Exactement, quand on parle de présentation, il y a un élément primordial qu'il faut le dire. C'est-à-dire que chez nous, quand on présente, c'est dans le but du mariage.
Hein. C'est ça.
Oui. On présente
on
pas
est
comme
déjà
ça.
Sûr.
Oui, voilà, c'est voilà, ça. On présente pas comme ça et, parce que c'est la personne avec qui je sors. Non, on présente parce que l'objectif, c'est le mariage. Et donc, c'est une étape très, très importante. C'est vraiment... une différence fondamentale qu'il y a aujourd'hui, je pense.
Même si ça a tendance à changer avec
la
nouvelle génération et le nouveau couple.
Oui, mais sur la question du mariage, et moi, je ne crois pas que ça change autant.
Ça reste très sérieux. Hein.
Oui, ça ne change pas autant que ça. Ouais, voilà. Il y a quand même une solennité derrière cet événement.
Nous avons encore deux petits messages de nos auditeurs. Ben Issou de Niamey, c'est au Niger. Je vis avec la mère de ma fille depuis l'âge de 20 ans, mais elle ne m'a jamais présenté dans sa famille. Comment la convaincre? Lui se pose cette question. On a aussi le message de James du Togo. Je redoute le jour où mes parents vont me demander de leur présenter le résolu de mon cœur, car je suis homosexuel. Ici, en Afrique, c'est un sujet tabou. C'est difficile à vivre pour moi.
Ah ouais, mais là, sur la question de l'homosexualité, on est très, très loin.
Comment faire une présentation?
Ben là, c'est déjà, avant de présenter, savoir si la famille est assez ouverte. Parce que pour certains, c'est puni par la loi, hein, dans certains pays d'Afrique.
Pour certains, ils se marient avec une femme pour vivre en douce
l'homosexualité. Hein. Et s'ils se font attraper, ils risquent la prison.
Ah ouais, mais même, c'est universel, ça. Ouais. En Inde aussi, ça marche comme ça.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, il faut faire... très, très, très...
Là, on
attention.
Est dans la transgression suprême.
Mais parfois, quand la famille est ouverte, elle peut être un peu... avoir l'impact de la société autour.
Oui,
de
c'est
se
ça.
Dire, est-ce qu'on a, même si nous, on veut bien, est-ce qu'on peut s'afficher?
On peut assumer face à toute la société,
oui.
En sachant que je pense que surtout là où il doit être au Togo, il n'y en a pas 400. Quoi, des...
oui.
C'est-à-dire, ça doit être le seul dans un environnement et c'est très, très lourd à porter. Déjà, être avec quelqu'un de différent, que ce soit religieux ou ethnique, ce n'est pas facile. Avec une personne du même sexe, c'est...
C'est vraiment la hachouma dans la famille. Quoi. C'est qu'est-ce qu'on va penser de nous au village, partout. Enfin,
c'est aussi une question religieuse, parce que dans certaines contrées, la religion a une place
importante.
Tellement importante que les trois religions monothéistes sont farouchement contre l'homosexualité.
Tout à fait. Oui. Et merci, chers invités, d'être venus nous parler de ce sujet. Comment présenter sa tendre moitié à sa famille? Merci à toute l'équipe. Cécile Lavelot, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Alix L'Hospital et les invités du jour, Anne Bénédicte et Alimata Fofana. Merci d'être venus.
Merci.
Demain,
merci.
Comment gérer ces messages à l'heure du numérique, du digital? WhatsApp, Facebook, SMS, mail, les moyens de communication se sont démultipliés. Vous sentez-vous obligé de répondre à tous les messages? On en parlera demain avec nos invités. Et n'oubliez pas, vous pouvez réécouter cette émission et aussi les émissions passées en podcast et nous laisser des messages sur les réseaux sociaux. Merci.